Marilyn Gill, la campagne électorale touche à sa fin. Le vote est prévu lundi prochain. Vous êtes la députée sortante de la circonscription de Manicouagan. Comment on aborde une campagne électorale quand on est députée sortante? C'est différent de la première fois où vous briguiez un premier mandat. Comment ça s'est passé, la campagne, cette fois-ci, Mme Gill?
Bien, il y a deux choses là-dedans. La première des choses, c'est le rythme. Quand on est député, j'ai l'impression qu'on commence une campagne. Je vais commencer en 2015, puis c'est jamais terminé, hein? Parce qu'il y a toujours des engagements, des demandes, des gens ont fait du terrain. Donc c'est une campagne permanente. Mais c'est certain que quand on arrive en élection, les gens nous demandent des comptes sur notre bilan, les engagements qu'on avait pris, est-ce qu'on a tenu nos engagements. Et évidemment, j'étais très heureuse d'avoir tenu les engagements, d'avoir travaillé, pardon, pour tous les dossiers qu'on m'avait demandé de porter à Ottawa. Les Nord-Côtistes qui m'ont demandé, en fait, bon, je l'ai porté à Ottawa.
Et ça a été quelque chose qui a été bien accompli. Et justement, pendant la campagne électorale, vous avez eu l'occasion de revenir sur certains de ces engagements-là que vous aviez portés à Ottawa, qui malheureusement n'ont pas toujours abouti, parce que les projets de loi, on en a déjà parlé, ça s'adopte pas aussi rapidement qu'on aimerait. Donc, vous vous êtes même engagé à poursuivre certains de ces engagements-là pendant la campagne, notamment le travail pour les travailleurs retraités, les assurances pour ceux qui ont travaillé pour des entreprises qui ont fait faillite, par exemple. Vraiment, vous travaillez toujours pour les travailleurs nord-côtiers.
Non, c'est certain. Pour moi, comme élu, l'idée première, c'est de travailler pour les gens, travailler pour les travailleurs. Donc, je trouve ça important que les idées viennent des gens. C'est eux qui savent de quoi ils ont véritablement besoin. Donc, pour moi, toute la question du projet de loi pour protéger les fonds de retraite, les assurances des travailleurs, des retraités, c'est important. Je veux redéposer un projet de loi. Vous l'avez mentionné, il y a quand même une espèce de loterie qui fait en sorte que le projet de loi, on peut en débattre à un certain moment. Il y a un ordre qu'on doit suivre. Bon, c'était à la toute fin, mais en même temps, on a fait des gains. On a vu tous les partis qui commencent à se positionner par rapport à cette question-là. Donc, moi, c'est certain que je veux redéposer un projet de loi en tout début de mandat. Donc, aussitôt que la Chambre va reprendre les travaux pour qu'il soit adopté, pour continuer le travail. Mais il y a vraiment un gros travail de terrain qui a été fait avec les gens, les syndicats, moi aussi, bien évidemment.
Oui.
Donc, c'est certain que je veux poursuivre.
Également, il y a un mot qui a été beaucoup à la mode pendant la campagne électorale. À tout le moins pour le comté, c'est le désenclavement.
Oui.
Désenclavement de la Côte-Nord, on en a entendu parler beaucoup. On a beaucoup entendu parler du pont pour enjamber le Saguenay. On a beaucoup entendu parler du parachèvement de la route 138. La 389, je sais que c'est un dossier qui vous est cher aussi. Vous l'avez sillonné, vous l'avez déjà emprunté. Est-ce qu'on peut inclure la 389 dans ce dossier de désenclavement en se disant qu'elle peut encore être améliorée, qu'on peut encore en améliorer la sécurité, notamment avec une couverture cellulaire adéquate? Et bien sûr, ça fait partie aussi d'une boucle avec le Labrador. Donc, est-ce que vous jugez qu'on peut inclure ça aussi dans ce fameux dossier désenclavement?
Ben, en fait, il faut. C'est vraiment nécessaire de l'inclure parce que quand on parle de désenclavement, c'est pas juste à l'est puis à l'ouest, c'est au nord puis au sud. Hein? Mm-hmm. Il y a Anticosti aussi qui veulent être désenclavés, puis évidemment Fermont, Kanyapisco. Donc, ça en fait partie. Puis moi, vraiment, en campagne, ben, il y a deux éléments là-dedans. Le premier, j'ai voulu remettre les pendules à l'heure parce qu'on dit toujours que ça appartient au fédéral, mais la juridiction, la compétence du transport, ça appartient au Québec. Où le fédéral intervient, c'est qu'il peut y avoir des budgets. Il peut dire, oui, je pourrais donner de l'argent, mais je vais vous... il va y avoir des contraintes. Hein? Je vais vous donner certains critères, certaines exigences qui font en sorte que les projets que le Québec veut porter, il ne peut pas les porter parce que ça ne répond pas aux critères du gouvernement fédéral pour aller chercher de l'argent supplémentaire. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement fédéral ne fasse pas obstruction au projet du Québec. Puis même, pas obstruction, puis laisse complètement le Québec décider, c'est sa juridiction. Et puis c'est certain que pour la Côte-Nord, je veux agir de façon, on pourrait dire, avec du leadership, mais en toute humilité en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse des états généraux. Plus simplement dit, en fait, c'est qu'on sache l'état de la situation pour la 389, pour, bien sûr, Anticosti, pour la 138, pour le pont, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens, ben, on s'y intéresse, tout le monde, mais il y a beaucoup de questions. On ne sait pas les travaux, où est-ce qu'ils en sont exactement. Il y a des mythes qui sont véhiculés. Là, j'ai parlé de la transcanadienne, par exemple, dont on nous parle. La transcanadienne, c'est le nom qu'on donne à une route qui va sillonner le Canada d'un de l'est à l'ouest ou vice-versa. Mais en fait, cette route-là, il n'y a pas de fonds qui sont dédiés à ça. Donc, c'est un peu comme la route des baleines. On l'appelle comme ça, mais en fait, il n'y a pas d'argent qui vient avec le fait qu'elle s'appelle route des baleines. Donc, moi, je veux qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va, puis tout le monde discuter. Puis quand je dis tout le monde, c'est oui, il y a les élus, bien entendu, il y a les entrepreneurs, mais il y a également la population qui a certainement des choses à dire aussi. Puis je pense qu'on aurait tout intérêt à former ensuite également un comité pour qu'on puisse travailler auprès du gouvernement du Québec, c'est certain. Moi, à Ottawa, pour défendre le fait que le Québec ait des projets puis qu'il veut pouvoir les développer et qu'on mette pas de critères contraignants. Puis en même temps, au Québec, être capable de donner une visibilité à ce dossier-là auprès du gouvernement, auprès de Monsieur Legault, puis qu'on les convainque et peut-être qu'on sorte des idées qui sont pas celles auxquelles on s'attend habituellement à l'extérieur du cadre, parce que ça fait longtemps qu'on attend, mais on peut aller de l'avant aussi avec d'autres solutions pour convaincre le gouvernement du Québec.
Et également pendant la campagne, bon, il y a plusieurs dossiers qui ont été abordés, bien sûr, elle a quand même été longue cette campagne-là. Il y a un des premiers engagements que vous avez pris, ça concernait beaucoup les entreprises nord-côtières. On pense beaucoup, en fait, à la Basse-Côte-Nord quand on parle du crédit d'impôt pour l'investissement pour les entreprises de l'Atlantique, un crédit d'impôt auquel des entreprises d'autres régions du Québec ont le droit. Donc, ça a été un engagement que vous avez pris d'aller chercher, en fait, ces crédits d'impôt pour les entreprises nord-côtières. De quelle manière ça pourrait avoir des répercussions, bon, sur la Côte-Nord, mais également sur le nord de la Côte-Nord?
Ah, c'est vraiment très important parce que en fait, encore là, c'est un autre exemple que ça vient de la population. On l'a découvert au bureau, il y a des gens qui nous en ont parlé. Puis ensuite, les municipalités ont pris des résolutions pour que je travaille dans ce sens-là, parce que vous l'avez dit, c'est un crédit d'impôt auquel on a le droit, qu'on appelle crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique. C'est très long, mais région de l'Atlantique, pour ce crédit-là, ça va jusqu'à la Pocatière sur la rive sud, mais ça exclut totalement la Côte-Nord. Donc, pour moi, c'est totalement arbitraire. On en a des investisseurs, des entreprises, puis ça concerne vraiment des secteurs de l'économie qui sont les nôtres, soit la pêche, soit les mines, par exemple, la forêt. Donc, les mines, on s'entend, hein, pour le Nord, pour Kaniapisco, c'est très important. C'est un crédit d'impôt de 10 %. Donc, 10 %, ça peut inciter évidemment à, oui, on va investir, à venir faire des affaires sur place aussi. Donc, pourquoi la Côte-Nord a été privée de ça? Ce qu'on souhaite, parce que c'est énormément d'argent, c'est depuis 1977, c'est à peu près 20 millions de dollars par année. Ça fait un calcul qui est prudent. Donc, on y est allé avec une moyenne, mais en même temps, il y a beaucoup d'industries lourdes sur la Côte-Nord, donc ça pourrait être encore plus d'argent que ce que je dis présentement, mais quand même, 1 milliard, on peut pas s'en passer. On veut qu'il y ait des gens qui viennent ici, on va développer, diversifier l'économie, donc c'est intéressant de travailler en ce sens-là pour qu'il y ait un crédit d'impôt. Si c'est pas celui-ci, ça pourrait en être un autre, mais pour pas qu'il y ait d'iniquité, parce qu'on a les mêmes secteurs d'activité, on est une population qui est vieillissante, il y a des gens qui quittent également la région, donc nous, on veut se développer, on veut vivre chez nous, on veut occuper le territoire, mais c'est un des outils desquels on pourrait se servir pour le faire.
Ça fait partie des mesures, en fait, qui pourraient être bien utiles au bilan démographique. Vous avez touché un petit peu le point. Bilan démographique, après bilan démographique, peu importe qui les publie, il y a un constat, c'est que la Côte-Nord est une des seules régions au Québec qui se vide d'année en année. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises, justement, qui peuvent être abordées avec le Bloc québécois, mais qui peuvent être prises en région également pour aider à tout le moins à stopper l'hémorragie et éventuellement, justement, un crédit d'impôt et d'autres mesures qui pourraient ramener des gens dans la région, peut-être?
Oui, il y a énormément de mesures qu'on pourrait prendre. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, mais pénurie de main-d'œuvre veut aussi dire exode démographique. C'est certain que nous, on voudrait des crédits d'impôt. Il y a eu un certain moment, on avait déposé des projets de loi, le Bloc québécois, pour les diplômés, les nouveaux diplômés, pour les amener en région. Même chose pour des étudiants étrangers aussi, on pourrait le faire. Toute la question des personnes retraitées, il y en a qui veulent revenir sur le marché du travail, mais il faudrait pas qu'elles soient pénalisées, finalement, ce soit pas payant pour elles de revenir sur le marché du travail. Il y a toute la question des Autochtones, parce que les populations autochtones sont jeunes, veulent s'intégrer au marché du travail, puis l'Association des Premières Nations Québec-Labrador le demande. Pensez aussi sur la Côte-Nord, c'est vrai, on a 15 % de la population qui voudrait. Il y a aussi l'assurance-emploi. On n'y pense pas comme mesure, mais en fin de compte, quelqu'un qui travaille dans nos industries qui parfois sont saisonnières, qui peuvent pas travailler ou peuvent pas passer l'année plutôt à cause du trou noir, par exemple, ça fait en sorte que ça met en péril nos industries. Et même chose, c'est les communautés, ça va avec ça. Puis ensuite, les gens peuvent quitter aussi parce qu'ils veulent mettre du pain sur la table. C'est normal, on veut tout ça, on veut survivre. Donc, c'est vraiment une panoplie de mesures. Les travailleurs temporaires étrangers, il y en a beaucoup ici aussi, puis c'est très difficile d'arriver à les faire venir à la bonne date. Ça fait que ça demande vraiment des investissements pour qu'on puisse arriver à les avoir au moment où on a besoin de ces gens-là, souvent dans la période estivale, là, du printemps jusqu'à l'automne. Donc voilà, vraiment une panoplie de mesures pour faire en sorte que les gens viennent s'installer chez nous, puis participent, puis même idéalement au Bloc québécois. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que par le moyen de l'immigration, que les gens viennent en région. Viennent s'installer en région aussi, parce que souvent, oui, il y a de l'immigration qui arrive à Montréal. Les gens arrivent, mais ils vont quitter pour l'Ontario, pour Toronto, par exemple. Donc, nous, le fait de permettre aux gens de venir s'installer en région, d'apprendre la langue, le français, de pouvoir s'intégrer, de se créer un réseau, ça fait en sorte que c'est positif pour ces gens-là qui peuvent s'intégrer très rapidement dans nos milieux puis participer à nos projets. Puis en même temps, bien, c'est positif pour notre région parce qu'on a des gens qui arrivent puis qui viennent nous donner un nouveau souffle aussi.
Vous avez parlé justement dans les solutions pour la main-d'œuvre de la population autochtone. On sait la population autochtone bien présente au niveau de Manicouagan sur la Côte-Nord. vous avez porté d'ailleurs plusieurs de leurs dossiers. Vous les avez assurés de votre soutien également pendant la campagne électorale. J'ai même lu que vous vous étiez engagé à apprendre l'inou si vous faisiez un prochain mandat. Et justement, on a besoin aussi du soutien des Autochtones souvent pour le développement dans la région. Quand il y a des grands chantiers, si on veut développer par exemple la route, le pont, si on veut de nouvelles industries qui se développent aussi, on a besoin de leur soutien, on a besoin de leur accord, mais également éventuellement au niveau main-d'œuvre et tout ça. Comment on peut jongler, comment on peut travailler dans tout ça?
Bien, moi, la première des choses que je dirais, c'est toute la question du respect, d'essayer de tisser des liens. Ça a été vraiment, pendant mon mandat, j'ai essayé de tisser des liens avec toutes les communautés autochtones, parce que comme moi, vous savez, je suis indépendantiste, donc je considère que je veux travailler pour les miens, bien sûr, pour des questions d'identité, de culture, d'économie aussi, mais c'est la même chose pour les communautés autochtones. Et il faut aller vers elles et comprendre leur culture. Oui, c'est certain que j'ai dit apprendre l'inou, mais je l'ai fait de façon personnelle. Là, c'est pas une promesse de député, parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement dans ce que je devrais faire, mais bon, pas ce que je devrais faire, mais dans les engagements, en fait. Donc, c'est très personnel, mais c'est une façon de créer un lien aussi. C'est quand même les premiers peuples. Donc, je souhaite être capable de mieux les comprendre. Je pense que ça passe aussi par la langue. Mais oui, créer des contacts, écouter, puis parfois, ça nous oblige peut-être à faire des choses différemment. Je pense, par exemple, ils sont très jeunes, mais il y a beaucoup de ces jeunes-là qui sont déjà parents, qui ont des enfants. Donc, il faut penser à comment est-ce qu'on peut les intégrer sur le marché du travail. Mais en même temps, je voudrais pas me substituer non plus à leur voix, parce que c'est eux qui savent aussi ce qu'ils aimeraient. Mais je pense vraiment toute la question du respect, de créer des liens. Moi, comme députée de la Côte-Nord, j'ai toujours voulu être rassembleuse le plus possible, parce que je considère qu'on est plus fort si tout le monde parle d'une même voix. Donc, ce serait une première chose, faire les pas vers eux, puis ensuite décider ensemble de quelle façon est-ce qu'on peut travailler pour le mieux-être de tous.
Trouver plein de façons là, de collaborer finalement, puis c'est vrai que c'est un levier important également pour la santé économique de la région. On a eu, enfin, une longue campagne, il y a eu quelques débats, et on a entendu vos opposants beaucoup cibler le fait qu'il fallait sortir la région de l'opposition, en fait. On a les libéraux qui ont clamé le même message, même chose du côté du Parti conservateur. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui clament que la Côte-Nord devrait sortir de l'opposition pour qu'enfin les projets avancent?
Ben, la première des choses, j'aurais aimé ça entendre leur plateforme électorale, mais c'est certain que si j'avais leur plateforme, peut-être que je parlerais plus de ce qui se passe au Bloc québécois que ce qui se passe peut-être dans leur propre parti. Première des choses. Mais en même temps, je pense que c'est de pas faire confiance aux électeurs puis à l'intelligence des électeurs. Parce que quand on envoie un élu à Ottawa, on veut que la personne nous représente. On veut que la personne défende nos valeurs. Donc, moi, quand je vois, par exemple, un candidat du Parti conservateur qui est contre l'avortement, Moi, qu'il soit au pouvoir, qu'il soit pas au pouvoir, puis de toute façon, on est 338 en chambre, donc il n'y a pas une personne qui a le pouvoir. C'est partagé entre toutes ces personnes-là. Mais j'ai pas envie d'avoir quelqu'un comme ça qui me représente parce qu'il ne représente pas mes valeurs. Il va travailler contre moi. Puis, prenez un exemple, la libérale, avec la loi 21, qui est une loi votée par l'Assemblée nationale, qui a 70% de la population en sa faveur. Puis là, on a un député, pas un député, on a un ministre, le premier ministre, monsieur Trudeau, qui dit qu'il va travailler contre ça. Donc, son député, théoriquement, ici, ferait la même chose, travaillerait contre le Québec, contre ses intérêts. Donc, moi, je ne sais pas l'argument du pouvoir qui est d'abord basé sur un mensonge. Il n'y a pas personne qui a une décision qui va le dire, voici ce qu'on va faire. Ça ne fonctionne pas comme ça, Ottawa. Première des choses. Puis ensuite, prendre des gens en otage en leur disant, vous devez voter pour le pouvoir, mais que cette personne-là va travailler contre eux. Je vois pas l'intérêt. J'aime mieux avoir quelqu'un qui va travailler pour ce que je veux, qui va travailler en collaboration, comme je l'ai fait. Par exemple, on est capable de ne pas être partisan. Je l'ai fait avec les gens du NPD, les gens du Parti libéral pour la question du projet de loi pour les fonds de pension. Sénateur libéral, puis un député du NPD. Donc, on peut travailler en collaboration. Et le pouvoir, c'est la population qui l'a en choisissant ce pourquoi elle veut que ses élus travaillent. Parce que si on choisit des élus qui vont travailler pour autre chose que pour ce qu'on veut, pour le pétrole de l'Alberta, pour l'industrie automobile de l'Ontario, bien, c'est certain qu'il n'y aura pas de gain chez nous. Et un gain, on l'a vu avec les projets pilotes pour l'assurance-emploi, on y a travaillé. On l'a vu pour l'industrie forestière avec les garanties de prêt, on y a travaillé, le Bloc québécois. Donc, il y en a des gains qui sont sensibles, puis on le voit à Sept-Îles avec la Pointe-aux-Basques, on voit avec le port de Baie-Comeau, par exemple, avec des investissements également dans les aéroports. Donc, il y a de l'argent qui arrive ici quand même. Ça relève des fonctionnaires, de programmes qui sont normés. Donc, il n'y a pas une personne qui décide de tout ça. Ça n'existe pas. On voudrait probablement que ça existe parce que sinon, je ne sais pas quels seraient les autres arguments des candidats conservateurs ou libérales. Il n'y a rien d'autre qu'on me dit. Donc, moi, je considère que non, on a fait notre travail, on en a encore à faire et je souhaite ardemment qu'on ait la balance du pouvoir parce que là, on va pouvoir négocier encore plus. On va pouvoir négocier, faire des gains pour le Québec parce que on n'aura pas le choix, tout le monde, de se parler. Il va falloir qu'il y ait des négociations, il va falloir qu'il y ait des ententes, des compromis qui soient faits. Donc, pour moi, je pense que on continue avec des gens qui défendent nos valeurs, qui vont travailler pour nous à Ottawa, puis c'est certain que je vais continuer à faire des gains, puis travailler vraiment, je me répète, mais j'y tiens, là, travailler pour les valeurs puis les projets des Nord-Côtiers puis des Québécois.
Et en terminant, Mme Gill, j'aime bien inviter les candidats à glisser un petit mot aux auditeurs, parce que l'important, c'est de les inviter à voter. On veut que la population se rende aux urnes et fasse un choix. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les inviter à poser un X sur le bulletin de vote lundi prochain?
Ben, je dirais, j'inviterais les gens à voter pour avec le cœur, avec la tête. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez comme Côte-Nord? Qu'est-ce que vous voulez comme valeur? Qu'est-ce que vous voulez comme Québec? Qu'est-ce que vous voulez comme économie? Nous, au Bloc québécois, c'est vraiment la défense du Québec et de notre économie. On va avoir notre juste part. Trop souvent, on se le fait dire, on n'a pas notre juste part. Évidemment, pour moi, ça passerait par l'indépendance. Entre-temps, il y a le Bloc québécois qui défend le Québec. Donc, si vous voulez des gens qui vous ressemblent, des gens qui vont défendre ce que vous chérissez, eh bien, bien évidemment, allez voter et voter pour le Bloc québécois.
Merci beaucoup, Mme Gill, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. On vous souhaite un très bon dernier droit dans cette campagne-là, le vote qui se déroulera lundi prochain. Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup.